Mesdames, Messieurs, bonjour, mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette quotidienne de l'agriculture de demain. Aujourd'hui à l'animation, M. Guy Debailleul et M. Michel Saint-Pierre. Messieurs, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Sébastien.
Alors, je suis Michel Saint-Pierre et je suis un peu nouveau dans ce rôle-là. Je remplace à pied levé Simon Bégin qui soigne un petit problème covidien qu'on appellerait, hein? C'est comme ça qu'on appelle. Et nous recevons aujourd'hui Léon Bibeau-Mercier de l'AKP. L'AKP, c'est la coopérative pour une agriculture, il va nous le dire mieux, une agriculture de proximité écologique. Alors Léon, bienvenue parmi nous.
Et
d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on revienne, parce que vous avez déjà été invité à cette émission. Je me souviens de vous avoir vu et rencontré par le biais de Zoom il y a quelques temps. Mais c'est très important de nous rappeler l'AKP, quel rôle joue son historique un petit peu également. Et je vous laisse aller sur cette présentation.
Alors bonjour, mon nom est Léon Bibeau-Mercier, je suis le président de l'AKP depuis l'automne 2022. L'AKP, c'est une coopérative qui a été fondée en 2013 d'un regroupement de productrices et producteurs biologiques diversifiés qui trouvaient qu'ils avaient besoin d'outils et de services adaptés spécifiquement à leur type de production, ce qu'ils ne retrouvaient pas ailleurs. Alors, aujourd'hui, l'AKP, ça regroupe des services de mise en marché coopérative sur une base volontaire, en marché public, mais aussi sous la forme de paniers collectifs. Ça regroupe des achats d'intrants, également des ateliers d'autoconstruction, donc de machines spécialisées, justement, qu'on ne retrouve pas sur le marché. Il y a également un volet important d'événements. Donc, on organise des événements deux à trois fois par année qui viennent regrouper les gens du milieu, un rendez-vous automnal et puis un expo champ bio, notamment. Donc, ce sont des occasions de tisser des liens, de partager les savoirs, de mettre à jour nos connaissances. Donc, ce sont un peu les activités qu'effectue l'AKP, mais le maillon commun de tout ça, c'est l'idée de tisser des réseaux de solidarité dans des secteurs, notamment le secteur maraîcher, où, je vous dirais traditionnellement, il y a peut-être une approche un peu plus individualiste et de méfiance peut-être entre les gens. Donc, en tissant ces liens de solidarité-là, puis en développant de façon commune ces activités-là, ce qu'on réalise, en fait, c'est qu'on va chercher des bénéfices beaucoup plus grands collectivement plutôt que d'agir individuellement. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'est née l'AKP à l'époque. Et depuis 2020, l'AKP inclut également le réseau des fermières et fermiers de famille qui a été fondé par Équiterre en 1995. Donc, l'AKP compte actuellement environ 200 fermes et environ 300 membres, si on inclut les membres associés, donc des intervenants, des étudiants, des acteurs du milieu.
Vous avez parlé de mise en marché. J'imagine que pour des petites exploitations, ça reste quand même un problème parce que ça, individuellement, c'est relativement coûteux en termes de temps, la mise en marché de la production. Donc, ce regroupement-là, dans quelle mesure est-ce qu'il répond justement à ce besoin de confier finalement à un groupe et avoir plus de volume également dans l'offre? C'est l'objectif de...
Il y a plusieurs objectifs à ces initiatives-là. Pour la plupart des entreprises qui y participent, ce sont des marchés qui sont complémentaires. Alors, la plupart des entreprises qui y participent font déjà, par exemple, des paniers bio, ou font déjà de la vente en marché public ou de la vente parfois à d'autres intermédiaires. Donc, la mise en marché coopérative, chez nous, c'est un volet complémentaire en général, souvent avec l'objectif de développer, par exemple, un volet semi-spécialisé dans l'entreprise. C'est-à-dire que souvent, c'est des entreprises qui ont un assez large éventail de production, effectivement, qui mettent en marché directement. Donc, ça leur donne l'occasion de développer, par exemple, une ou deux productions à un petit peu plus grande échelle, de s'y spécialiser un petit peu, puis d'aller chercher une forme de stabilité aussi dans les revenus qui proviennent de ça. Ensuite, les projets, là, en général, pour l'instant, ce sont des projets, entre autres, qui sont axés sur la mise en marché hivernale. Pourquoi? Parce qu'on a une assez bonne couverture, par exemple, dans la formule de panier bio en été. Hein, il y a une certaine abondance. Et puis, justement, chaque forme individuelle incapable en général de tirer son épingle du jeu de ce côté-là. Mais il y a un trou en hiver pour plusieurs raisons. De un, on offre des formules saisonnières, ce qui est un peu plus difficile à vendre. On ne se le cachera pas aux gens manger de saison, alors qu'à l'épicerie, ils ont accès à une alimentation complètement désaisonnalisée. Ça permet donc d'occuper un marché en hiver qui n'était pas occupé par les fermes et donc de pas leur piler sur de pas piler sur les parts de marché qu'ils ont déjà l'été finalement. Idéologiquement parlant, ça nous permet de mettre en application aussi un des discours qu'on a, qui est celui de manger de saison et puis d'acheter de l'agriculture de proximité, même en hiver. Alors, c'est un peu avec tous ces objectifs-là qu'on a mis en place ces initiatives de mise en marché. Et on va aller plus loin là-dedans. On a un projet en démarrage en Estrie, où là, on aurait des infrastructures d'entreposage et de conditionnement collectif pour mettre en marché des paniers d'hiver dans la grande région estrienne également. Donc, avant, on regroupait les produits puis on les distribuait. Et là, on va un petit peu plus loin, justement avec des infrastructures d'entreposage, conditionnement et, dans un volet 2, si tout va bien, en transformation.
Guy? Mais tu parlais effectivement de mise en marché, donc de produits que les producteurs n'écoulent pas par leur circuit. Puis propre, mais ça s'est écoulé auprès de quel type d'acheteurs auprès de la coopérative?
Alors, on essaie d'aller chercher une clientèle de panier encore, donc des clients individuels, parce que ça demeure la façon de passer le plus de volume, d'une part, et puis aussi d'aller chercher la meilleure valeur possible pour les produits. Et puis, dans une moindre mesure, il y a de la vente aux institutions, puis de la vente parfois à certaines épiceries indépendantes ou à certains autres grossistes. On essaie vraiment de mettre l'accent sur la vente directe aux consommateurs quand même.
Tu as fait allusion à plusieurs activités, plusieurs fonctions de la CAPE, la mise en marché, mais aussi l'éducation, la formation. Au titre de ces différentes activités, est-ce que la CAPE peut compter sur des soutiens de différents programmes de politique agricole?
Alors, en général, on va chercher des soutiens à la pièce, par exemple, dans les programmes proximité, par exemple. Je pense que c'est déjà arrivé qu'on... je ne veux pas me mettre le pied dans la bouche, mais peut-être auprès de territoires. Mais on a accès parfois via Innovation, je pense. Et puis, par exemple, en Estrie, on a eu accès là, au programme de développement des marchés bioalimentaires. Mais ça demeure des financements assez limités, puis surtout très à la pièce. Et pour vous donner un exemple, par exemple, dans le cas du programme de développement des marchés bioalimentaires, ça nous a pris bon nombre d'années avant de pouvoir conclure un projet avec eux. Et peut-être cocasse, mais on a été chercher également un financement pour ce projet-là auprès du ministère des Affaires municipales, ce qui était beaucoup plus rapide et avec un financement plus important. Alors, il y a des enjeux là dans l'administration des politiques, certainement.
Bon. Il y a manque de récurrence, j'imagine, également, dans ce genre de... C'est des programmes qui sont à la pièce, si on veut.
Ben, oui, c'est des programmes à la pièce, somme toute d'ampleur assez limitée. Là. C'est-à-dire que, par exemple, le programme proximité, là, c'est à coût d'environ 50 000 $. Évidemment, on ne peut pas le réappliquer de façon récurrente à un même projet année après année, d'une part. Puis actuellement, l'enjeu aussi auquel on fait face, mais les fermes en général, là, c'est que la plupart des programmes actuellement n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement ou d'une refonte et on n'a à proprement parler aucune nouvelle de quand ça va arriver. Alors même AgriConseil actuellement, on ne sait pas exactement quelle va être la forme du renouvellement, le niveau de soutien et quand ça va arriver. Des programmes comme productivité végétale, prime verte, territoire, proximité, on ne sait pas non plus s'ils vont être reconduits, si oui, quand ou sous quelle forme. Et on est presque à la mi-année à l'heure actuelle et on est toujours dans le néant. Alors, on pourra discuter aujourd'hui peut-être de la transformation des politiques agricoles, mais certainement, un élément de base serait d'avoir au moins, de connaître au moins un minimum d'avance si les programmes récurrents vont être reconduits ou pas. Et actuellement, on n'a aucune idée.
Si on parle, puisqu'on parle de programme, il y en a un sur lequel vous est-ce qu'on peut dire frapper assez fort, je pense que ce serait peut-être l'expression de le dire, le programme ASRA, dans le dossier du port et particulièrement du contexte actuel. Vous avez écrit un article qui est paru dans Le Devoir le 26 avril, donc au moment où justement où la nouvelle sortait, l'effet que la fermeture de Vallée-Jonction, et on commençait à comprendre davantage le problème, le resserrement qui se faisait dans le secteur porcin. Mais votre article qui est sorti parle d'abord et avant tout d'ASRA et voudrait transformer ce programme-là. Alors, je vous laisse la parole là-dessus. Qu'est-ce que vous lui reprochez, ce programme-là, pour lequel, soit dit en passant, j'ai écrit il y a pas mal d'années un document pour mettre fin à ce programme-là?
Ben, d'abord, c'est la première chose que j'allais dire. Ce serait un peu prétentieux de notre part de dire que ce sont des critiques nouvelles, mais on voyait très certainement l'opportunité de renouveler cette critique-là, justement, dans un contexte où la production porcine est plus refermée que jamais. C'était déjà le cas à l'époque, puis elle a vécu de nombreuses crises cycliques entre-temps. Mais là, on sent qu'on atteint quand même un point où il y a plus d'intégration que jamais. Il y a un quasi-monopole sur le marché, presque même de la production, puis de l'abattage, puis de la transformation. Puis on a dépassé le milliard de dollars en un peu plus que 10 ans là, dans les soutiens, alors qu'à l'époque là, où vous avez écrit votre rapport, je pense que c'était autour de 400 millions, je ne sais plus trop. Là. Donc, on a continué là, finalement de s'enfoncer depuis que ces grandes critiques-là ont été formulées, puis on est demeuré, il y a eu quelques modifications basées entre autres sur vos travaux, mais somme toute, il n'y a pas eu de changement de paradigme important. Puis, ce que je pense important de souligner, c'est que depuis cette période-là aussi, entre autres, il y a eu la fondation de l'AKP, mais la fondation de l'AKP, c'est plus un symptôme, je vous dirais, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une vague de fond, l'émergence d'un mouvement organisé puis concerté en agriculture de proximité, puis qui constitue maintenant, je pense qu'il faut le dire, une bonne portion de la relève agricole et une bonne portion des gens qui souhaitent pratiquer l'agriculture puis qui sont dans les écoles d'agriculture. Et je pense qu'il y a des raisons à ça, notamment parce que la formule est intéressante, parce qu'elle demande des investissements moins grands, qu'elle est plus résiliente, moins dépendante des marchés internationaux et du prix des intrants. Mais on assiste, somme toute, à des constats difficiles, c'est-à-dire que malgré la formule plus résiliente de cette forme d'agriculture-là, elle n'échappe pas aux grandes difficultés que vit l'agriculture en général. Elle les vit peut-être moins fortement, mais elle les vit néanmoins. Je pense que c'est important de souligner, sans bénéficier des programmes, notamment l'ASPA, qui constitue la majeure partie des sommes qui sont investies dans notre politique agricole. Alors, on a une relève agricole qui s'en va majoritairement dans ce secteur-là. On constate que la forme d'agriculture que ces gens-là souhaitent pratiquer correspond aussi aux attentes de la société, ou en tout cas à l'idée qu'ils souhaitent se faire dans une forme idéale d'agriculture, j'ai l'impression. Quand on regarde la forme des politiques, on constate qu'il n'y a pas énormément de place au-delà de certains programmes à la pièce pour donner un véritable coup d'élan pour que cette forme d'agriculture-là prenne son envol, parce qu'on ne se le cachera pas, on demeure un mouvement marginal. Les achats alimentaires qui sont réalisés en circuit court, en agriculture biologique, c'est environ 2,5% des achats alimentaires. Donc, on ne se fait pas d'illusions sur la place qu'occupe réellement notre mouvement dans la consommation alimentaire dans les faits, mais on pense que c'est la forme d'agriculture qui correspond le plus à ce que les gens souhaitent voir émerger comme agriculture, qui correspond réellement à leur vision comme citoyen, et qu'il va falloir lui donner une impulsion si on ne veut pas qu'elle stagne, voir que les formes conventionnelles reprennent le dessus à terme.
Nous allons faire une pause publicitaire. C'est le temps, Sébastien, oui. Alors, un petit 2 minutes et on vous revient.
Oh,
Depuis 1992, Première Moisson est fière d'être à votre table avec les produits inspirés des méthodes traditionnelles françaises. Venez découvrir la grande sélection de pains frais du jour confectionnés par des artisans boulangers et mettant en vedette les blés du Québec. Visitez premièremoisson.com ou rendez-vous à la boulangerie la plus près de chez vous. Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
Nous voilà de retour. Je suis Michel Saint-Pierre. Je suis en compagnie de Guy de Bailleul et nous recevons ce matin Léon Bibeau-Mercier, qui est président de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Juste avant la pause, on parlait des programmes. On disait d'une part que l'ASRA, qui était très visée dans l'article que vous avez écrit sur la crise du porc, ne répondait pas d'aucune façon à la nouvelle agriculture que vous préconisez, que vous mentionniez que les citoyens attendent et que les jeunes agriculteurs également veulent avoir. Est-ce qu'ils ont en tête un modèle de soutien et est-ce qu'il y a une démarche qui est faite concrètement dans ce sens-là auprès de l'État, en fait, parce que c'est l'État qui est le grand pourvoyeur de ce côté-là, historiquement, et juste pour parler de l'ASRA, ça fait 40 ans que ce programme-là existe sans avoir été véritablement modifié. Alors, quel est votre modèle?
Bien, d'abord, on se pose pas, nous, en experts du design des politiques publiques, mais on est très certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien outillés pour ça, mais on pense que certainement la base, je m'excuse, on pense que la base de ça, c'est d'abord d'établir une vision de ce des caractéristiques d'une agriculture qu'on estime désirable, et à partir de ces caractéristiques-là, de bâtir les politiques de soutien pour venir la stimuler. De telle sorte qu'on est dans une approche pour l'instant essentiellement basée sur des filières spécialisées notamment. Et dans le modèle d'agriculture que nos membres pratiquent, ce n'est pas du tout ça. Ils ont une diversité de production, souvent dans les élevages, dans les productions maraîchères, ou parfois dans les productions de grains ou autres. De telle sorte que lorsqu'on embarque dans l'approche filière, on ne se retrouve pas véritablement. La plupart des programmes de soutien aussi vont venir s'articuler autour de cette approche filière-là. Quand je vous parlais de programmes comme le PDMB, ou Innovation ou autre, on est souvent dans cette dynamique-là. Et on a de la difficulté à faire rentrer nos projets dans les cases comme ça. Au niveau de l'ASRA, actuellement, lorsqu'on a un faible volume de production, souvent ce qui arrive quand on est dans un modèle diversifié où on base notre mise en marché sur la complémentarité des produits. Les seuils de volume nécessaires pour appliquer à l'ASRA font en sorte que ce n'est pas possible d'appliquer d'une part, et d'autre part, même si on a le volume nécessaire, le niveau de compensation qui est prévu, hein, de la différence entre le coût de production puis le prix de marché, ne reflète pas véritablement les coûts de production, souvent dans une forme alternative d'élevage, qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques qu'un élevage spécialisé à grande échelle.
J'aimerais ensuite, peut-être rappeler à ce moment-là que l'ASRA a été conçu en visant des productions très spécifiques et des volumes spécifiques, donc, et selon un modèle. Et c'était, je le répète, il y a 40 ans. Et le Québec est resté le seul endroit au monde où il y a encore des programmes qui visent une production en particulier. Partout ailleurs, on a, dans le fond, aboli ces frontières interproduction-là, et on soutient l'agriculture, l'entreprise comme telle, les revenus, et on donne un filet de sécurité à l'entreprise globale, dans toutes les productions qu'elle peut faire. Et si je dis ça, c'est parce que c'est souvent, on l'oublie un petit peu, cette situation-là. Je me permets de le rappeler pour avoir baigné dans cet univers-là assez longtemps. Je crois que c'est important de le mentionner. On reste le seul endroit qui a continué de supporter une production très visée selon un modèle de production très spécifique également.
C'est l'occasion pour moi de rappeler que... On fait un design des politiques en fonction d'un objectif. À l'époque, la forme que l'ASRA a pris, c'est en fonction de certains objectifs, puis notamment de favoriser certaines productions. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, on avait décidé un peu arbitrairement d'en exclure certaines, mais d'en inclure d'autres. Et actuellement, si notre objectif est autre pour notre politique agricole, effectivement, ça demande que les outils soient transformés en conséquence d'une part. Nous, peut-être où on diverge, on entend bien l'idée selon laquelle il faut soutenir à peu près toutes les formes d'entreprise sans trop orienter, disons, le choix des productions en fonction des programmes qui viennent nous inciter ou pas à entrer en production. C'est la vision qui est effectivement conforme souvent dans les accords internationaux. Mais ceci dit, nous, on va un peu plus loin dans le sens où on dit... Il y a des caractéristiques précises d'une agriculture qu'on veut voir émerger, et on pense qu'il faut véritablement cibler des programmes spécifiquement pour stimuler l'émergence de ces formes-là spécifiques d'agriculture. Alors, on est peut-être un peu moins universaliste de ce côté-là, mais à court terme, à tout le moins, ça serait certainement une bonne étape de s'assurer qu'il n'y ait pas des productions, et a priori des productions nourricières qui soient exclues de la majorité des soutiens. Puis, l'OCDE nous dit qu'il faut baser la réforme des politiques sur la diversification puis sur l'innovation. Alors, c'est quand même pas très à gauche, l'OCDE, quand même, comme organisation. Alors, on pense que ce sont quand même des bonnes bases. Puis, il y a une réalité que je voulais aborder spécifiquement avec vous. Nous, c'est vrai qu'on compte quand même un grand nombre de membres maraîchers, là où qui est une production très intensive en main-d'œuvre et qui actuellement repose largement sur les travailleurs étrangers temporaires. Et pour nous, ça pose plusieurs enjeux. Bon, il y a l'idée de dire, est-ce qu'on peut baser, par exemple, une approche de la souveraineté alimentaire sur une main-d'œuvre qui est essentiellement étrangère et temporaire, d'une part, mais aussi le fait qu'on pense qu'on a le potentiel de créer des productions où le travail peut être diversifié, stimulant, rémunéré correctement. En fait, ce que demande la relève agricole qui souhaite faire sa place en ce moment. Puis, on ne voit pas le reflet de ça non plus dans les politiques. Puis, on trouve, ceci dit, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler à la gestion de l'offre ou à l'ASRA, qu'il y a eu cette prise en compte-là, malgré tout, dans ces programmes-là, de la rémunération adéquate reliée au travail. Ce qui pour nous est quand même un bénéfice immense, et on pense que dans les politiques ça devrait faire partie de ça, et on comprend pas pourquoi justement dans un secteur comme le nôtre qui fait face au marché mondialisé comme les autres, nos membres n'ont pas accès à un calcul du coût de production puis une compensation qui est basée sur le coût réel de leur travail, la valeur réelle de leur travail.
Mais effectivement, c'est un point important à souligner. Et effectivement, y compris de ce point de vue-là, la production porcine offre une sorte de contre-exemple dans la mesure où comme pour les autres productions, il y avait le souci d'une rémunération correcte du travail du producteur et donc tout ce qu'il y avait autour du calcul du coût de production. Et on en est venu à soutenir des entreprises intégratrices à très grande échelle. Effectivement, là, on avait un paradoxe que vous avez souligné. Il y a un autre aspect aussi, on parle d'agriculture de proximité écologique, et donc ça veut dire aussi l'impact sur le développement régional. Ça me rappelle qu'un de mes étudiants à une certaine époque, Denis Boutin, a fait son étude sur les retombées socio-économiques des différentes productions agricoles au Québec, des retombées sur les régions, sur leur environnement immédiat. Et puis, il était ressorti de cette étude que la production qui avait le moins d'impact, le moins de retombées positives socio-économiques sur son milieu, c'était la production porcine. Et là, en quelque sorte, vous trouvez à l'antithèse de ça, parce qu'on peut penser que c'est ces types de production que vous favorisez ont un impact économique, un impact social sur les communautés beaucoup plus important.
C'est ce qu'on pense, mais je pense aussi que des travaux un peu plus récents de Patrick Mundler venaient également fonder ça, d'une part. Mais il y a aussi le fait que... Excuse, je m'interromps. Il y a aussi le fait justement que on peut créer un noyau qui va au-delà des retombées positives de la production. C'est-à-dire que lorsqu'on maille les producteurs avec les consommateurs, puis qu'on vient créer un environnement de solidarité puis de communauté, on vient aussi souder la communauté au-delà des retombées économiques qu'il y a. Donc, nous, on pense aussi que c'est l'avantage de pratiquer une agriculture de proximité.
Est-ce que...
Je m'excuse un moment. Lilian?
Ah, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie, ça.
Oui, c'est la vie.
On est malheureusement à la dernière minute de notre émission. Oui. Je l'ai abordé la question.
J'allais dire, on a une opportunité parce qu'on a beaucoup parlé des critiques qu'on peut formuler à la production porcine, mais il nous reste des producteurs indépendants en production porcine. Il nous reste des gens qui sont agriculteurs, qui ont des retombées sur les communautés. Et puis, on a l'opportunité de ne pas les laisser tomber puis de s'assurer que ces gens-là ne quittent pas l'agriculture. Mais pour ça, il faut s'assurer d'avoir des voies de transition puis de transformation de leur production qui soient fertiles. Nous, on pense que la voie de la souveraineté alimentaire, c'est une voie qui est intéressante. Et justement, pour ne pas laisser ces gens-là de côté puis pour s'assurer qu'ils continuent de contribuer à l'agriculture, il faut émettre une vision et c'est urgent.
C'est votre message et je pense que c'est lui qu'on voudrait qu'il passe le plus possible auprès de la société. Merci Léon Bibeau-Mercier d'avoir été notre invité ce matin et je crois que il serait intéressant qu'on vous suive, qu'on continue de suivre d'abord votre groupe, mais également le modèle d'agriculture que vous préconisez. Alors, merci encore une fois et bonne fin de journée. Au revoir.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.